On va parler aujourd'hui d'un petit organe, la langue. Je crois que vous en avez tous une langue, il me semble, donc ça va nous concerner un peu chacun d'entre nous. Jacques chapitre 3, on va lire les versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous avez vu jusqu'à présent dans Jacques que ces chrétiens étaient dans l'épreuve, dans la difficulté. Il y avait là la tentation de se venger quand ils étaient persécutés. Et Jacques leur dit « Calmez-vous, réagissez plutôt avec l'amour, avec la paix ». Et il aborde là depuis quelque temps des choses que souvent nous minimisons peut-être, où on se dit « Bon, c'est pas si grave que ça », parce qu'un meurtre, c'est grave devant Dieu. Mais par exemple, faire du favoritisme, ça, c'est peut-être pas grave. Et pourtant, on a vu que c'était aussi un péché. Et là, il en vient carrément à l'intimité, on pourrait presque dire, de l'être humain, la langue. Donc on a tous une langue. Heureusement que vous pouvez parler, c'est quand même bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette langue-là? Et donc il va parler justement que Dieu a aussi un projet pour notre langue. On imagine plein de projets dans notre vie avec Dieu, partir en mission ou je ne sais pas. Mais il a même un projet avec ma bouche. Curieux, hein? Eh oui. Et on va voir ça un peu ce matin et l'idée c'est de se laisser transformer par Christ. Parce que je pense que vous n'avez pas encore la bouche parfaite. Quelqu'un a une bouche parfaite, ne se met jamais en colère, ne dit jamais de choses méchantes. On est tous pareils, et même Jacques va le dire lui-même. La première chose, il s'adresse d'abord aux enseignants, et c'est peut-être pas par hasard, la langue des enseignants, on pourrait parler, ceux qui apportaient la parole, qui enseignaient. Le mot, en fait, parle de docteur ou de pasteur, on pourrait dire aussi. Le mot parlait aussi de Jésus comme maître à l'époque quand il enseignait, comme professeur aussi, ou celui qui est chargé d'instruire. En l'occurrence, moi, peut-être votre frère tout à l'heure, mais peut-être ça peut aller même plus loin, on verra. Donc dans le Nouveau Testament, c'était celui qui enseignait tout simplement les choses de Dieu. Et donc Jacques s'adresse à ces personnes. On sait que dans l'Ancien Testament, c'était un des trois grands ministères. Il y a, à l'époque, il y avait les apôtres, il y avait les prophètes, et puis les pasteurs-docteurs. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, mais il y a toujours ces pasteurs-docteurs. Mais il y a aussi ces gens qui transmettent tous les jours peut-être la parole. Je pense à ceux qui le font dans l'école du dimanche, ou peut-être avec le groupe d'ados. Ou, voilà, on a une manière ou une autre de transmettre la parole de Dieu, mais je pense qu'ils se focalisent quand même plus vers les enseignants, les docteurs, etc. Mais la langue, pour moi, pour le pasteur, est l'outil de travail. C'est comme ça que je travaille, mais je fais d'autres choses, je ne fais pas que parler, heureusement. Souvent on dit que le pasteur travaille que le dimanche, ce n'est pas vrai. Venez m'accompagner, vous allez voir. Mais c'est un outil de travail, et c'est un outil de travail important, parce qu'avec cette langue, il va proclamer tout simplement Jésus-Christ. Il va nourrir le peuple. Et forcément, s'il est pasteur, il faut qu'il fasse les choses correctement. Et Jacques, en même temps, va restreindre le nombre d'enseignants dans l'Église. Parce qu'il faut un peu se placer dans le contexte. À l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas très lettrés. Il n'y avait pas vraiment la possibilité de faire des études comme nous aujourd'hui. Mais le fait de pouvoir parler devant l'Église, ça les mettait un petit peu en valeur. Et derrière, il y avait forcément l'orgueil. Et ça, ça plaisait. Vous savez, ça existe encore aujourd'hui. Des pasteurs qui s'autoproclament, des gens qui ont absolument envie d'être devant parce que, on est vu. Vous voyez, comme c'est compliqué, comme j'aimerais bien être assis des fois. Mais bon. Mais à l'époque, c'était ça. Et Jacques dit... pas trop de personnes qui enseignent. Parce que Le problème, c'est qu'est-ce que ça produit au fond de la personne. Parce que les gens aiment bien être admirés devant les autres. À l'époque, Jésus reprenait les rabbins et tout ça, qui hein, se pavanaient devant toute la foule avec leurs beaux discours. Mais Jacques dit, attention, parce que il avertit, il dit qu'ils sont jugés plus sévèrement. Donc, c'est pas très drôle en fait d'être à notre place, parce que le Seigneur ne rigole pas avec nous. Et c'est surtout l'idée, je pense, c'est pas qu'un jugement, mais c'est l'idée qu'on prend la responsabilité que à celui qui enseigne, qui transmet, parce qu'il ne doit pas dire des bêtises, mais aussi dans le fait que lui, il sait, donc il enseigne, pardon, donc il doit aussi lui mettre les choses en place dans sa vie. Hein. J'enseignerai jamais quelque chose que je ne fais pas dans ma vie personnellement, c'est clair. Mais il faudrait que je le fasse quand même, d'accord. Mais le Seigneur regarde et il demande justement de faire attention, parce que lui, il verra ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et de là, on sera évidemment jugé devant lui plus sévèrement. C'est facile de dire aux autres de faire et de ne pas faire soi-même. Hein. Et souvent, c'est comme ça, mais on essaie de ne pas être comme cela. Et on se souvient que les scribes et les pharisiens, à l'époque, étaient aussi jugés par Christ, hein, et les corrigeaient sévèrement, parce que justement, ils avaient une responsabilité devant le peuple, mais souvent, ils faisaient carrément le contraire de ce qu'ils disaient. Et Jésus les reprend. Donc ça donne pas trop envie d'être enseignant hein, dans l'Église, normalement. On ne devrait pas avoir envie. C'est plutôt le Seigneur, généralement, qui appelle quelqu'un. Et cette personne n'a pas forcément non plus envie. Vous avez vraiment à fond envie d'être pasteur ou d'enseigner, posez-vous la question pourquoi vous avez envie de le faire? Pour la gloriole ou parce qu'on a vraiment envie de servir le Seigneur humblement? C'est pas toujours simple de faire la différence entre les deux. Donc la langue, nous dit Jacques, qui désire enseigner, doit surtout comprendre sa responsabilité. Peut-être que quand nous témoignons aussi vis-à-vis des autres, on peut aller un peu plus loin, je pense, mais on a aussi une responsabilité de ce qu'on dit aux gens qui nous posent des questions sur le fait d'être chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Qu'est-ce que tu penses? Souvent on fait Mais là, on a aussi une responsabilité quelque part de dire Ah, mais je suis chrétien parce que. De défendre ma foi. Pas forcément de faire de la théologie, mais au moins de savoir quelques versets et pouvoir répondre à une personne en face de nous. C'est une responsabilité. Puis, Jacques maintenant s'adresse à tous les chrétiens à partir du verset 2, et il voit là que la langue, c'est un problème que nous avons tous, heureusement. Nous bronchons tous, il dit. Le mot broncher, ça veut dire faire trébucher quelqu'un, pardon, tomber peut-être soi-même, errer, faire une erreur. Je pense que vous avez tous fait une erreur un jour avec votre bouche, par la colère, par un mensonge peut-être. Un blabla, un ragot, je sais pas, enfin il y a mille et une façons de faire une erreur avec notre langue. On peut mentir, on peut être hypocrite, on peut faire un tas de choses mauvaises avec notre langue. Nous bronchons tous de plusieurs manières, nous dit. On peut même des fois le faire sans faire exprès. Parler à quelqu'un, bon, peut-être la personne est susceptible, un peu trop, et elle est blessée, mais on ne le sait pas. On peut faire un tas de choses sans le savoir même avec notre langue. Et parfois, on parle tellement vite, et boum, on fait une bêtise. Et boum, on dit des choses mauvaises, et ben, parfois, ça a même des grosses conséquences pour l'autre en face, ou peut-être pour nous-mêmes. Donc la Bible nous dit de tourner la langue 7 fois avant de parler. Hein, une fois, deux fois, trois fois. C'est long, hein, le temps avant de répondre quelque part. Mais nous, on va très vite souvent, parce que... Hein, on combat l'autre souvent avec notre langue. La langue est un problème commun à tous, nous dit Jacques, parce que Jacques dit, nous bronchons tous. Lui-même, il est en train de s'inclure là-dedans. Lui-même dit qu'il a des problèmes avec cela. Tous les hommes peuvent faire des erreurs avec leur langue, et je crois que l'expérience nous le prouve, nous avons tous fait une erreur ou deux dans notre vie. Le problème de la langue est donc universel, et donc forcément, ça concerne tout le monde, parce que nous avons tous une langue parfois tordu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et la langue en pratique met ce cœur tortueux en place et parle de ce cœur. Il est difficile de maîtriser sa langue, non? C'est facile de ne pas se mettre en colère, surtout quand l'autre vous énerve un truc. Hein, si on avait un petit marteau là. Mais des fois on le fait avec la langue. C'est dur de se maîtriser, n'est-ce pas? Mais pour être maîtrisé, je crois qu'on n'y arrivera jamais nous-mêmes. Et on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être transformé par le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit, pour nous sanctifier, modifier notre façon de parler, modifier notre façon d'agir avec la langue. Donc ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire à un moment, ah ouais, bon, bah, écoutez, c'est ma langue, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Non, le Seigneur dit qu'il faut changer d'attitude, apprendre à maîtriser cette langue. Et vous savez, quand on le fait, on plaît aussi à Dieu. On aime plaire à Dieu de mille et une façons, mais on ne se souvient pas qu'on peut plaire à Dieu aussi dans notre façon de parler, de s'adresser aux autres, de ne pas s'énerver contre l'autre, et plutôt d'apporter, comme on a vu dans le texte tout à l'heure, plutôt de la bénédiction que des mots, non, on va passer. Mais il dit aussi qu'une personne qui ne bronche pas en parole, c'est quelqu'un qui est complet, qui est parfait. C'est un homme parfait, un homme d'abord discipliné, hein, parce que quelqu'un qui maîtrise sa langue, c'est quelqu'un qui est discipliné au fond de lui. Et si sa langue est disciplinée, ça veut dire que son cœur l'est aussi, parce que ce que dit la langue vient du cœur, tout simplement. Il dit, c'est un homme parfait, quelqu'un qui accomplit. Alors, on n'est pas dans la perfection comme Dieu, on en est loin, mais c'est quelqu'un qui accomplit, où on voit qu'il y a une certaine maturité de la part de Dieu qui s'est produit dans cette personne-là. Il est à l'image de Dieu, on pourrait dire. Et ça, c'est le changement que le Saint-Esprit, que Dieu veut faire tout simplement en nous. Et il veut qu'on apprenne à maîtriser notre langue. La prochaine fois qu'il y a un gros mot qui sort, hop, top, qu'est-ce que je viens de dire ? Pardon, Seigneur. Ça vous arrive tous, hein. Quand on se tape avec un marteau sur le doigt, vous ne dites pas « Amen hein. ». Généralement, il y a d'autres mots qui sortent. Mais bon, on peut demander pardon au Seigneur. Et le fait de réagir déjà comme ça et de le répéter tout doucement, le langage va changer. C'est un homme discipliné. Il dit aussi que c'est une langue maîtrisée, c'est un synonyme de maturité spirituelle. Vous savez, la Bible nous dit aussi d'abord de maîtriser tout notre corps. Hein. Et dans ce corps, bah, il y a la langue aussi. On s'occupe souvent du reste, mais pas de notre langue, de notre langue. Et de notre langue, de notre bouche, il en sort des choses extraordinaires des fois, mais des choses aussi absolument atroces et pas jolies à entendre. Et le Saint-Esprit va continuer à travailler le cœur et la langue. Ça dépend de moi, tout simplement. Soit je le minimise en me disant « tout le monde parle mal, je ne vais pas faire un effort dans ma vie ». Ben non, justement, il ne faut pas minimiser cela, puisque la Bible en parle et le Seigneur veut qu'on change d'habitude. Hein, souvent, on le sait, mais on est un peu fatigué. Hein. C'est pas évident de maîtriser cette langue, parce que ça va vite, parce que des fois, on fait même pas attention à ce qu'on dit, on blesse l'autre sans le faire exprès, et puis, le soir venu, quand je prie pour ma journée, je me suis pas rendu compte que j'ai mal parlé, peut-être à Canaan, etc. Mais le Seigneur veut qu'on y fasse attention. L'esprit travaille le cœur, et une fois que la langue est maîtrisée, qu'est-ce que ça produit ? La joie, la paix. Vous n'aurez pas d'embrouille avec quelqu'un, bon, sauf si l'autre vous cherche, mais là, vous maîtrisez l'ensemble. Mais quand on parle bien, finalement, il n'y a que des bonnes choses dans notre cœur. Quand vous parlez bien aux autres, quand vous apportez la paix, eh bien, c'est génial, hein ? C'est mieux que de dire des méchantes choses aux autres, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas convaincu. Hein ? Vous êtes fatigué ce matin. Hein ? Eh oui, si ma langue est maîtrisée, mon cœur est aussi maîtrisé, quelque part, ça veut dire aussi que j'apprends à maîtriser mon corps. Et ça, ce ne peut qu'être bénéfique pour l'autre, mais surtout pour moi, quelque part. Cette maladie de la langue, je l'appelle ça une maladie, hein, on pourrait trouver d'autres termes, on l'a vu, est commune à tous, mais il faut d'abord réaliser qu'on est malade à ce niveau-là pour commencer à guérir. Si je ne réalise pas que ma langue, des fois, trébuche, ben, je ne vais pas chercher à la changer. Mais Jacques, justement, et c'est là où c'est une épître très pratique, nous rappelle que nous devons prendre conscience de ce problème et nous mettre au travail. Troisième chose qu'il nous apprend, et il va faire un espèce de portrait très réaliste de la langue, hein, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, il va parler un peu de ses caractéristiques de la langue. Il dit, il prend des images d'abord, hein, et il nous rappelle que la langue oriente et dirige le chrétien, comme par exemple bah, le mort du cheval. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait du cheval, c'est très pratique, ça permet de conduire le cheval, parce que sinon on vous emmène n'importe où. Hein. Et un cheval, c'est souvent fougueux, et il a besoin d'être dompté, et ce petit mort permet de diriger tout simplement le cheval. Puis prend l'image du bateau, hein, ce tout petit gouvernail, parce que vous regardez la grandeur d'un bateau et le gouvernail qui dirige finalement, bah, c'est tout petit, et il contrôle le bateau, il dirige le bateau, même dans la tempête, même dans toutes les difficultés. La langue, c'est la même chose. C'est celle qui nous dirige dans notre vie. En fonction de ce que nous disons, eh ben, nous nous laissons diriger à droite ou à gauche. Au verset 5, il parle des conséquences de cette langue. Et cette petite langue, c'est toute petite langue par rapport, proportionnellement, on va dire, au reste du corps, cette toute petite langue va influencer notre vie Elle va influencer peut-être la relation dans la famille. Elle va influencer un pays. Parce que quand notre président dit quelque chose, ça influence forcément. Et ça peut aller même plus loin, quelque part. Si petite, toute petite, et elle se vante de grandes choses. Hein. Nous-mêmes, quand des fois nous racontons une histoire, on exagère un petit peu, surtout quand on est le héros. Hein. On a tendance à un petit peu enjoliver toutes ces choses-là. Et avec notre langue, on dit jamais aux autres du mal de nous-mêmes. On dit toujours qu'on est bien, beau, joli, etc. On ne va jamais dire l'inverse. Hein. Et pourtant, elle s'enflamme des fois d'orgueil, tout simplement. Et ça, le chrétien ne le réalise pas forcément. Hein. Vous savez, l'orgueil, ce n'est pas un truc qui vient comme le meurtre, qui est aussi, je sais pas, qui fait un tel impact dans le cœur. On ne va pas culpabiliser de la même manière. Mais on a souvent de l'orgueil, on ne s'en rend pas compte. Et on le dit aux autres, on en parle aux autres avec notre langue, et elle est enflammée par l'orgueil. Et cette langue, cette toute petite langue va faire des ravages, parce qu'elle peut blesser, elle peut pousser au suicide, et de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui se suicident à cause de la langue, justement, qui est mal employée, elle peut pousser au meurtre, elle peut faire des choses absolument abominables. Une langue peut envoyer une bombe nucléaire, juste avec la langue. Bon, il y a le doigt et le bouton, mais c'est la langue qui va donner l'ordre. Terrible ce qu'elle peut faire comme ravage, cette langue. Tout ce que nous disons aussi, parce que ça, il faut le réaliser, c'est que tout ce que nous disons aussi a des conséquences. Si je dis à quelqu'un, t'es moche, t'es débile, je sais pas quoi, excusez-moi, mais et si la personne est un peu susceptible, fragile, ça va avoir un impact sur sa vie tout le temps. Quand on parle à nos enfants, dans l'éducation, et qu'on les traite comme cela, parce que beaucoup de gens nous disent, alors inventer un débile, etc., ben ça, c'est un impact tout le reste de la vie. Juste une langue, une parole qui est faite là. La langue, elle est dans tous les domaines de notre vie et elle peut faire de sacrés dégâts. Mais en tant que chrétien, quand nous parlons, qu'est-ce que nous voulons faire à l'autre ? Apporter de l'amour, normalement. Bon, des fois, il faut reprendre. C'est aussi de l'amour de reprendre les gens, mais pas de blesser, pas de faire du mal derrière. Le verset 6, il parle des caractéristiques de cette langue. Hein. C'est un monde d'iniquité. Il est quand même terrible, Jacques, hein, parce que quand il parle de la langue, il ne parle pas en bien. Il ne parle jamais en bien, en fait. Un monde d'iniquité qui produit l'injustice, l'infidélité, le crime, produit mille et un torts à l'autre ou à soi-même, des fois. Elle souille, le mot grec veut dire elle salit, en fait, tout le corps. Quand j'insulte quelqu'un, c'est tout mon corps qui est sale, pourri, quelque part. On le fait par nos mensonges, et un mensonge, forcément, demande un autre mensonge qui amène un autre mensonge, et puis pour revenir après, bah, c'est compliqué. Hein. L'orgueil, on l'a dit, des blessures, elle souille tout le corps, elle est enflammée par la géhenne. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'était la géhenne. À l'époque de Jérusalem, il y avait un endroit où brûlaient en fait toutes les ordures, les cadavres, etc. Et c'était un feu quotidien, hein, constant. Et ça rappelle tout simplement l'enfer. Cette langue, elle est enflammée par l'enfer, tout simplement. Parce que si on ne la laisse pas se faire maîtriser par l'esprit, si on ne passe pas par la conversion, eh ben, elle va produire que des choses mauvaises qui, forcément, mènent loin de Dieu. Et elle démontre surtout notre nature pécheresse. Si un jour vous vous dites que vous êtes arrivé au top de la vie chrétienne, de la sanctification, écoutez-vous parler. Ça va vite vous calmer, parce que là, il y a encore beaucoup de travail. C'est pas qu'on veuille le faire exprès, mais c'est qu'il y a des situations, des fois, qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous poussent, justement, à parler mal, des fois, hélas. Mais, au fur et à mesure, on apprend. Versets 7 à 8, il dit que la langue a des défauts. Hein, la langue est indomptable. Et il fait un parallèle avec les animaux. L'homme a su dompter tous les animaux de la terre. Il n'y a pas un qui n'a pas été dompté, et même s'il est féroce, il peut le dompter s'il veut ou pas. Par contre, il n'est pas capable de dompter sa petite langue. C'est quand même fou. Quand le contraste entre les deux, on est capable de dompter toute la nature, mais ma langue, je n'arrive pas à l'apprivoiser encore. J'ai beau essayer, elle ne veut pas. Mon cœur ne veut pas. Et on a beau essayer, ben, des choses sortent. Et voilà. C'est quand même terrible quand on y réfléchit, hein, parce que le contraste est fort, très fort. La langue est dangereuse, dit Jacques, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et lui, il est un peu fataliste quand même, hein, quelque part. On dirait qu'on ne peut absolument pas changer. Un mal que l'on peut réprimer, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir. On a beau essayer, on fait, il faut que je craque à un moment, parce que l'autre m'énerve certainement, ou parce que moi je ne suis peut-être pas bien à ce moment-là, et voilà, elle ne peut pas se contenir. C'est terrible. Elle est pleine de venin, il dit, de poison. Hein. C'est, le mot veut dire aussi de rouille. C'est quelque chose en fait qui empoisonne la vie et qui finalement apporte la mort. Et c'est vrai, quand vous vous mettez en colère après, vous êtes heureux. Moi, ce qui m'énerve dans la colère, c'est qu'il faut que je demande pardon à l'autre. C'est ça ce qui m'embête le plus, en fait. Mais voilà, on n'est pas bien quand on est en colère. Quand on ment, on n'est pas bien, on culpabilise. Quand on a dit quelque chose de mal à l'autre, ben forcément, ça pourrit notre vie, tout simplement, alors que des paroles de bénédiction, hein, on est tout léger après, on est heureux. Mais voilà, ça va tellement vite des fois. Cette langue est une contradiction aussi vivante, il dit au verset 9 à 11, hein, parce qu'avec la même langue, nous bénissons. Ah mon frère, je t'aime. Et puis derrière, on le maudit, hein, parce qu'on a des choses qu'on n'aime pas sur lui, qu'on ne va pas lui dire directement, mais on fait des ragots, etc. Quelqu'un écrivait en parlant de prier et de râler en même temps. Il y a quelques années, un jeune étudiant en théologie découvrit quelque chose de cela d'une manière très surprenante. Les étudiants étaient déjà assemblés dans le réfectoire et attendaient qu'ils rendent grâce au Seigneur pour le repas. Il arriva précipitamment à sa place et pria avec la plus sublime éloquence en remerciant le Seigneur pour la nourriture qu'ils allaient prendre. Puis il ouvrit les yeux et se trouva face à un plat à la couleur la plus repoussante. Il s'écria alors tout haut et sans réfléchir « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie ?» À quoi faut-il le préciser ? Toute la salle répondit par un immense éclat de rire. Cependant, cet étudiant et le reste de l'assistance vit immédiatement la contradiction, quel que soit le comique de la situation, de la juxtaposition du remerciement dans le principe et de la révulsion dans la pratique. Le rire lui-même, qui semblait fournir une sorte d'amen à la tension entre la provision de Dieu et les efforts de la cuisine, servait d'autant plus puissamment à démontrer combien il est aisé pour la langue de déverser des sentiments complètement opposés, et cela en une fraction de seconde. Merci Seigneur. Oh là, mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas ce que je voulais du tout. C'est moche. Et on est comme ça. On a une langue complètement contradictoire qui bénit et qui peut aussitôt maudire. Une langue qui blasphème et qui parfois est mielleuse et qui sait aussi faire des belles prières en même temps. C'est fou comme on est compliqué, nous les hommes, et surtout notre langue. Elle peut dire de bonnes choses et de mauvaises choses en l'espace de quelques secondes. Est-ce qu'on s'en rend compte ? Bon, les bonnes choses, ça, on s'en souvient, mais les mauvaises choses, on essaie de les esquiver bien souvent. La sainteté et le péché, ben, des fois, peuvent presque cohabiter à une fraction de seconde à cause de notre langue. Et part d'une source, hein, de là où jaillit tout cela, et ben, c'est le corps de l'homme. Si mon cœur est triste, avec de la rancune, mauvais, forcément, ça va émerger par la langue. Forcément, ça va faire du mal au prochain. Avant de vouloir soigner la langue, il faut commencer à soigner tout simplement le cœur. Et là, il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. C'est bien pendant les vacances, on est un peu plus reposé, peut-être l'occasion de se mettre à travailler. Comment on peut être transformé par Dieu ? Enfin, on peut faire travailler pour vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer mon cœur ? Vous êtes enregistré.
Méditer.
Prier. Méditer la parole. Je crois que c'est les deux grands éléments. Méditer la parole, parce qu'en la méditant, je vais réaliser mes péchés et je vais demander pardon au Seigneur. Et au fur et à mesure de lire la Bible, je vais voir tous les problèmes que j'ai dans ma vie et je vais les régler au fur et à mesure que le Seigneur est prié, évidemment. Chaque matin, on peut maintenant prier, Seigneur, que ma langue ne fourche pas, tout simplement. Et Dieu écoute ce genre de choses. C'est une bonne intention. Et si ça nous arrive, on peut encore prier en demandant pardon, tout simplement, immédiatement. Et peut-être aller demander pardon à la personne qu'on a blessée. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais il faut... C'est un exercice quotidien. Il faut être simplement alerte, s'en rendre compte. Et laisser le Saint-Esprit, ben, de temps en temps, nous... Une petite fessée, là, pour dire « Oh, comment t'as parlé ? C'est pas bien ce que tu as dit, et la manière de l'avoir dit. » Le portrait, donc, de Jacques, qui est très réaliste, hein, parce que ça nous rappelle, nous, tout simplement, ce qu'on vient de dire. Oh, vous n'êtes pas encore enflammé de la GN, je ne pense pas. Bien que, quand on se met en colère, c'est pas toujours drôle, puisque vous devenez tout rouge, généralement, hein, un peu comme la GN. Mais le portrait réaliste de Jacques sur la langue doit nous pousser à nous arrêter et surtout à demander à Dieu de nous transformer, à être sanctifié. Et ça, on peut le faire avec notre langue. Demander au Seigneur de me changer dans ce domaine-là. Ou au moins qu'il me dise à un moment si je fourche, quand il y a les gros mots, quand il y a les choses qui ne sont pas belles, qui sortent de ma bouche. Puis il veut nous apprendre une quatrième chose, c'est que Dieu a des projets, comme j'ai dit au départ, pour notre langue. Bon. Dieu a des projets dans toute la vie du chrétien, mais il a aussi un projet pour notre bouche et pour notre façon de parler. Il veut qu'on apprenne à maîtriser notre langue. puisque Jacques dit au verset 10, il ne faut pas, après avoir fait le portrait hein, de la langue, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on agisse, qu'on parle avec, et qu'on utilise notre langue. Et prend des images, hein, il dit la source et le figuier, hein, ils ne peuvent pas ni produire des fruits différents de ce que normalement ils produisent, et la source ne peut pas produire et de l'eau de mer et de l'eau douce, c'est impossible. Et quelque part, il est en train de dire, ben, dans la vie du chrétien, normalement, il ne peut pas produire le fruit du Saint-Esprit, amour, paix, etc., et en même temps, reproduire le fruit du monde, qui généralement, lui, ne se gêne pas d'utiliser sa langue pour faire du mal, à tort et à travers. Et là, une tension entre les deux qui n'est normalement pas possible chez le chrétien. Alors, on sait que techniquement, dans notre vie, on est encore des fois à faire des choses du monde, hélas, mais ça ne devrait pas être comme ça. Dieu devrait nous transformer. À un certain stade de notre vie chrétienne, il faudrait quand même qu'on ait avancé dans ce domaine-là et que notre langue ne fourche plus. Comprenons que la langue reflète le cœur. Hein. Pour changer la langue, ben on l'a dit, on doit d'abord commencer par changer notre cœur. Pour que ce cœur soit changé, il faut donner l'autorisation à Dieu de le faire par son esprit. Pour que ce cœur soit changé, il faut que je lise la parole de Dieu, que je la comprenne, que je la médite, que je prie. Et puis il y a peut-être plein d'autres choses à faire derrière. Parce que sans Dieu, la langue, elle exprime le péché et tous les méfaits qui l'accompagnent. Sans Dieu, regardez dans votre travail ou ailleurs, les gens, quand ils disent des gros mots, ils ne viennent pas vous demander pardon. Quand je travaillais dans le Sud, hein, alors là-bas, les gros mots, c'est la virgule, hein, le gros mot. Donc à un moment, moi-même, j'étais en train de me faire aspirer par ça. Mais tout, très vite, le Seigneur m'a repris et chaque fois, je me dis pardon. Après, on se rhabitue, mais c'est vrai. Sans Dieu, la langue exprime le péché, le monde. Mais avec Dieu, la langue veut exprimer l'amour, la paix, hein, la joie aussi que Dieu met dans notre cœur. Et une langue qui apporte la paix autour d'eux, généralement, c'est bénéfique, tout simplement. La langue doit être soumise à Dieu, nous dit la Bible. Et là, j'ai quelques versets hein, qui parlent de cela. Par exemple, dans Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Alors, plaisanterie, le mot, c'est des plaisanteries vraiment, hein, on va dire, pas bonnes. Hein. On peut avoir de l'humour, mais il y a aussi des plaisanteries qui vont un peu trop loin. Qu'on entende ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ah, quand tout le monde parle en actions de grâce vis-à-vis de l'autre, c'est le pays de Heidi, hein. C'est merveilleux. On est heureux. Quand tout le monde bénit l'autre quelque part plutôt que dire des choses méchantes. Donc, Éphésiens nous dit pas d'obscénité, pas de plaisanterie équivoque, mais que de l'amour vis-à-vis de l'autre. Colossiens 3:8 dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Quand on fait des ragots, c'est malhonnête vis-à-vis peut-être de la personne qu'on ne connaît pas. Souvent, on prend un ragot et puis on... C'est le téléphone arabe, ça arrive chez vous, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Hélas, c'est malhonnête vis-à-vis de la personne, c'est malhonnête vis-à-vis de Dieu. Et puis il y a plusieurs manières d'utiliser notre langue de façon malhonnête. Puis dans 1 Jean 3,18, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » « Mon frère, je t'aime !»« Oui, mais j'ai besoin de ton aide. »« Oui, je t'aime. » »« On verra plus tard. » Et aimer, c'est aussi mettre en action cet amour. Et la langue peut des fois dire aux autres qu'il les aime, mais s'il n'agit pas, c'est qu'il ne démontre pas d'amour vis-à-vis de cette personne-là. Il y aurait plein d'autres versets, mais on n'aura pas le temps de le voir ce matin. Donc la maîtrise de la langue, c'est un don que Dieu veut nous donner, tout simplement. Apprendre à contrôler cette langue, ça fait aussi partie de ce programme, de ce processus de sanctification que le Seigneur veut placer dans notre vie. La langue, vous savez, on doit la préparer parce qu'un jour, on sera devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel ? Le ménage, j'ai entendu. Pardon ? On va louer Dieu, oui. Le ménage, il n'y aura plus de poussière là. Oui, on va glorifier Dieu. Et vous imaginez si on venait avec notre langue comme ça, glorifier Dieu. Alors, dans le ciel, on sera transformé. Mais on vient comme ça des fois à l'église, avec une langue encore tordue. Et loin d'être sainte, on pourrait dire. Dieu ne demande pas la perfection, on est bien d'accord, mais peut-être qu'avant de venir le louer, si j'ai dit quelque chose de mal à mon mari ou à mon épouse, à mes enfants, c'est peut-être l'occasion de demander pardon, de se réconcilier, parce que Dieu voit aussi ces choses-là. Et est-ce qu'il agrée ensuite la louange de quelqu'un qui finalement a péché juste avant et qui s'en fiche complètement ? crois pas, parce que la Bible nous dit qu'il n'écoute pas cette personne. Hein, que c'est David qui disait, si j'avais conçu l'iniquité, Dieu m'écoute pas. Donc on peut faire des belles louanges, alors que j'ai un problème avec quelqu'un juste avant, et Dieu, il bouche les oreilles. Et c'est juste inutile. Et c'est bien dommage. Hein. Donc cette langue, Dieu veut la préparer aujourd'hui pour l'avenir. On peut déjà aujourd'hui l'utiliser pour le glorifier, mais pleinement et correctement. La bonne manière de parler, hein, disait quelqu'un, c'est qu'il faut considérer plusieurs choses. Il dit premièrement, avant de parler, considère ce que tu dis. Prends le temps. Deuxièmement, pourquoi tu le dis ? Hein, pourquoi je dis ça ? Troisième chose, à qui tu vas le dire aussi ? Quatrième chose, de qui tu tiens ce que tu dis ? Parce que là, on est en plein rabot. Cinquième chose, ce qui va résulter aussi de tes paroles. Parce que tu es sensible, tu peux savoir peut-être l'impact que ça va avoir sur une personne si tu viens pour l'insulter. Tu peux quand même te dire, ça va lui faire du mal. Sixième chose, quel profit va en découler, tout simplement, de ce que tu vas dire à cette personne. Et septième chose, qui écoutera ce que tu diras ? Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde non plus. Et dit, mais alors tes paroles sur le bout de ton doigt, et tourne-les de cette manière avant de les exprimer. Ainsi, aucun mal ne résultera jamais de tes paroles. Je vous le donnerai, si vous voulez, pour réfléchir. Hein, c'est cette façon de stopper peut-être ce qu'on veut dire, de stopper notre langue, parce que ça permet tout simplement de ne pas dire des bêtises. Et même des fois, quand on aura passé tous ces filtres, on arrive encore à dire des bêtises, hélas. Mais c'est bien d'apprendre à se maîtriser, à prendre le temps avant de dire des choses et de se laisser transformer par le Seigneur. Nous avons donc besoin de l'aide de Dieu, non ? Parce que par nous-mêmes, je suis désolé, mais on n'y arrivera jamais. On peut faire des efforts, mais évidemment, je dois travailler avec le Saint-Esprit. Je dois le laisser faire dans ma vie, mais le Seigneur veut qu'on apprenne à maîtriser notre langue. Pour terminer, je pense qu'il faut qu'on réalise d'abord, parce que je ne peux pas changer, comme j'ai dit, on ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas réalisé l'horreur de notre langue. On n'est peut-être pas des monstres avec notre langue, mais vous êtes tous mis en colère et on a tous dit des choses méchantes à quelqu'un un jour. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut que je le réalise et que je réalise que Dieu n'agrée pas ces choses-là. Il faut de temps en temps s'écouter parler, s'arrêter et dire « qu'est-ce que tu viens de dire là ?» Prenez un dictaphone, là, vous le mettrez, vous mettez toute la journée et puis vous écoutez. Je dis ça. Non, c'est pas possible. Il faudrait s'écouter parler. Puis bah, quand on s'écoute parler, on va aussi automatiquement se corriger. Puis peut-être pardonner aussi ce qu'on a dit. Demandons à Dieu son aide pour changer d'abord notre cœur, puisque c'est là où ça commence, dans notre cœur. Et puis si notre cœur change, forcément notre langue va changer automatiquement. Et il y a plein d'autres choses aussi qui vont changer si le cœur change. Que notre langue soit d'abord au service de Dieu, plutôt qu'au service de l'orgueil, au service du monde, parce qu'elle y est souvent. Et pour finir, changeons l'usage peut-être de notre langue. Et là, j'ai un auteur inconnu qui a écrit cela, et on va terminer là-dessus. Il dit « Rien qu'un mot de colère, mais il a blessé un cœur sensible. Rien qu'un mot de dur reproche, mais il a fait couler des larmes. Rien qu'un mot impatient et réfléchi, mais il a assombri un jour qui s'annonçait radieux. Rien qu'un mot malveillant et moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. Rien qu'un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. Rien qu'un mot de sympathie, mais une âme en détresse a été consolée. Rien qu'un mot d'encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, et le jour tout entier a été transformé. » Que le Seigneur nous aide à être de cette manière-là. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et tout particulièrement pour cet épître de Jacques qui est très pratique, comme nous l'avons dit, et qui s'adresse directement à chacun d'entre nous et surtout au niveau de cette langue que nous utilisons tous les jours de mille et une manières, Seigneur. Pardon peut-être pour toutes les choses mal que nous avons dites. Pardon pour les blessures que nous avons aussi faites à notre prochain. Seigneur, ton Saint-Esprit est en nous si nous sommes nés de nouveau et il veut aussi s'occuper de ce problème que nous avons tous. Apprends-nous d'abord à réaliser ce péché. Apprends-nous ensuite à laisser la porte ouverte au Saint-Esprit pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous transforme, qu'il nous stoppe quand nous faisons du mal, pour nous pousser à nous repentir et à repartir de plus belle, Seigneur. C'est un long et difficile chemin, j'en suis conscient, Seigneur. C'est un défi aussi pour le chrétien, mais ce n'est pas impossible puisque tu nous demandes dans ta parole. Nous puissions-nous, chrétiens, entre nous déjà parler avec des bénédictions, avec amour vis-à-vis du prochain, même quand des fois c'est difficile, mais surtout aussi vis-à-vis du monde, parce que ça fera un terrible contraste par rapport à leur façon de parler. Et peut-être qu'ils vont se poser des questions. Pourquoi nous ne parlons pas de cette manière-là? Et ce sera l'occasion de témoigner tout simplement. Aide-nous, Seigneur, et viens à notre secours dans ce domaine. Nous allons le faire pour ta gloire, parce que nous te célébrons par notre langue. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.